Donc, je pense que j'espère que je vous ai donné une idée de ce que c'est la théorie, pourquoi c'est une bonne idée de l'utiliser, mais même aussi quels sont les problèmes avec ça. Et les problèmes que toute la communauté des humanités numériques dans le monde est en train de se faire des questions, de se faire des demandes et de trouver des réponses à ça. Et la seconde partie qui va commencer dans 2 minutes, au moment que si vous avez des questions et on respire un peu. Et, donc, ça va vous montrer comment le faire, vous donner la possibilité d'essayer un tout petit peu à faire de l'XML. Ok ? Question ?
Ouais, est-ce que il y a eu des... s'il y a de nouveaux besoins qui apparaissent pour... au niveau de la TEI, est-ce que y a la TEI enfin, standardise régulièrement de nouvelles balises, de nouveaux éléments?
Oui, la réponse est oui. Tous les 6 mois, il y a une nouvelle version de la TEI qui prend en considération les requêtes, les demandes de la communauté, la possibilité de demander une nouvelle balise, de changer une balise pour avoir un autre attribut, une autre fonctionnalité, ou corrector, faire une correction parce que c'est vraiment pas logique. Et tous les 6 mois, on a une nouvelle version de la théorie. Et normalement, au moment, la théorie est dans la version 5, et toutes les corrections qu'on fait dans la même version sont compatibles avec la première version de la version 5. Elles ne sont pas compatibles avec la version 4 parce qu'il y a eu un changement de technologie. Une nouvelle version de la TEI, normalement, c'est un changement de technologie qui ne permet pas de faire des choses qui sont compatibles. Mais à l'intérieur de la version 5, elle est compatible. Et il y a des outils pour convertir les 4 dans les 5, les 3 dans les 4, dans les 5. Donc, il y a quand la TEI change de version, donc dans une version qui n'est pas compatible, donne aussi les outils de conversion. Donc, la chose à comprendre avec la théorie, que c'est une communauté, et comme aussi, et c'est un standard. La communauté fait des personnes qui l'utilisent, qui parlent entre eux dans un mailing list, qui se retrouvent une fois par année. On était à Rome au mois d'octobre, et Marie-Luce a donné un keynote qui nous donnait la conférence plénière finale. Et tous les années, on se retrouve. La prochaine fois, ce serait au mois d'octobre 2014 à Chicago. Et puis après, on ne sait pas. Peut-être à Tours.
Oui.
Alors, pourquoi pas. Et donc, il y a... Je ne me rappelle plus en version en France. Il y a depuis Nancy qu'on a fait, on a fait une version une théorie en France. Je pense que ce serait les années c'était ma mûre pour avoir une théorie en France encore. Pensez-y. Donc toutes les années, donc les personnes se connaissent, travaillent ensemble. Il y a un council technico qui se retrouve 2 fois par an, par année, pour faire la révision de tous les bugs qu'ils ont trouvés, les requêtes qu'ils ont obtenues. Il y a 2 années, on a fait j'ai piloté un groupe qui a amené la plus grande modification de la théorie depuis son commencement, qui c'était la théorie, c'est pas seulement un codage de texte. Mais maintenant, c'est aussi un codage des documents. Donc, il y a une philosophie complètement différente d'un codage. C'est pas le texte seulement paragraphe par paragraphe, mais les documents page par page. Donc, c'est une perspective complètement différente d'un codage qui a été introduit en 2011. Donc, c'est la théorie, c'est quelque chose qui grandit des conséquences des requêtes qu'elle a. D'autres questions?
Alors peut-être est-ce que tu as présenté RDF, JSON comme étant des alternatives à l'XML. Alors bon, j'ai l'impression que c'est plutôt des compléments.
On
peut combiner des approches.
On peut combiner. Ils ont des utilisations différentes, mais quand on voit dans les panoramas du numérique, il y a des personnes qui ont commencé à faire du codage directement en RDF.
Oui.
Ils ne sont pas incompatibles, mais il y a, je ne sais pas l'expression en français qu'on peut utiliser pour ça, on l'appelle les « new kids on the block », c'est-à-dire les jeunes plus agressifs qui sont arrivés, qui disent que XML, c'est comme les... non, c'est fini, mais c'est quelque chose de « out of fashion ».
C'est démodé.
Démodé, c'est comme on peut « your grandfather underpants
mm-hmm. ».
So, c'est like les culottes de votre grand-père. Donc, quelque chose qui n'est pas de la recherche, technologie, c'est quelque chose qui est solide, qui marche, mais ce n'est pas quelque chose d'enthousiasmant en termes de la recherche, de la formalisation de l'informatique.
Okay.
Et donc, les nouvelles technologies et les web... le JavaScript, JSON qui travaille très bien avec JavaScript et tous ces formalismes là sont plus cool.
Mm.
Donc, comme je disais, c'est pas nécessaire que l'XML c'est fini, c'est pas, ça veut dire pas ça, parce qu'il y a des choses qui sont encore plus les couleurs de vos grands-pères qui sont très, très solides, qui marchent bien pour stockage, archivage, sont magnifiques. Mais qu'est-ce qu'on s'est demandé avec la TUIS, c'est vraiment que la TUIS est seulement en XML.
Mm.
On pourrait penser en théorie qu'il peut être exprimé dans d'autres langages, en XML, en RDF, en JSON, en Python ou quoi. Donc, on pensait à l'idée de faire une théorie plus abstraite et la possibilité d'avoir différentes technologies. Mais l'idée de fond resterait la même. Et donc, XML resterait là. Ce n'est pas quelque chose qui va mourir. On n'a pas l'idée que XML va mourir. Comme format d'archivage, c'est justement le meilleur. Mais ils ont des limites. Les limites de chevauchement de la hiérarchie, c'est une limite qui est vraiment terrible. Il n'y a rien à faire.
Il y a le même problème avec JSON.
Oui, je sais. Ce n'est pas un problème d'XML, c'est un problème RDF, n'est-ce pas? On peut penser à des triples, donc on n'a pas la nécessité de faire comme ça.
Quelles sont des astuces utilisées pour le
Oui, il y a des astuces, mais ce n'est pas vraiment une solution et il n'y a pas des outils qui supportent les astuces. Donc, c'est le problème, ça. Il faut les développer. Oui, il faut les développer, il faut faire la customisation, la personnalisation des outils. Donc, le problème, c'est que les textes, ce sont les textes. Les matériels qu'on a, ils sont faits comme ils sont faits. Et les langages informatiques, ils sont faits comme ils sont faits. Et ils ne sont pas compatibles. Donc, si on veut numériser les documents avec les comme ils sont faits dans le numérique, il faut faire des compromis. Je pense que les compromis qu'on a trouvé maintenant, que c'est celui-là des boîtes, ce n'est pas le bon. Parce que c'est trop lourd à payer. Donc, il est en train de supporter une vision du texte simplifiée. Et c'est pas ce que le texte est. Donc, si c'est un outil de recherche, je pense qu'il faut trouver un compromis, une diverse formalisation qui nous permet de représenter plus. Donc, c'est le problème qu'on a comme des chercheurs. Donc, c'est mon problème à moi, parce que je travaille avec des textes qui ne sont pas vraiment faciles à mettre dans des boîtes. Vous avez vu Proust? Donc, il n'y a pas de boîtes qui sont souples. Il nous faut quelque chose de différent, une conception, une conceptualisation différente. Comme je disais, tout langage, ce n'est pas seulement un langage, une séquence de balises, mais c'est une conceptualisation de la réalité. Donc, la réalité qu'on peut décrire en façon hiérarchique, ce n'est pas la réalité réelle des textes. Donc, il faut, je pense, faire de la recherche, continuer à essayer de trouver un formalisme qui nous permet d'être plus proche à ce que l'ordinateur, les textes humains, les cerveaux marchent complètement d'une façon différente, c'est quelque chose qu'on sait. Mais il faut trouver une diverse formalisation. Ça, c'est la chose que je disais. Donc, ça pas veut dire qu'on va abandonner, c'est pas vraiment ça. C'est quelque chose d'essayer de trouver un équilibre différent, un peu plus proche de la réalité des matériels qu'on travaille.
Merci.
Ok. Donc,
deuxième partie.
On commence avec la deuxième partie. Bon, c'est la partie la plus pratique, ok? Donc, excusez-moi, je commence avec une introduction générale, et puis c'est Sarah Laurent qui va vous conduire petit à petit dans un exercice. Donc, XML est fait de deux concepts, quand je disais, il y a deux règles, non pas, pas plus de deux, la première, de deux composants, ok? Les premiers, ça, on appelle l'élément. Et le deuxième, c'est l'attribut. Okay? Ça, c'est une version simplifiée de XML qui sera suffisante pour vous donner une idée. Okay? Donc, qu'est-ce que c'est un élément? Un élément, c'est quoi que ce soit qu'on a décidé que c'est important pour nous. Okay? Donc, c'est à vous, quand vous encodez, de décider, OK, ça, c'est un élément, quelque chose qui constitue une partie de mon texte, quelque chose que je vais nommer parce que c'est important pour moi. Okay? Donc, il y a une séquence, parce que c'est du texte, donc c'est une séquence de lettres et d'espaces et d'autres signes qui, pour nous, a un significat particulier. Okay? Donc, les éléments sont structurés comme ça. On a une start tag, donc une balise qui ouvre et une balise qui ferme l'élément. Tout ça, la balise, le contenu et la balise qui ferme, s'appelle l'élément. L'élément, la balise a un nom, normalement, et la balise qui ferme reproduit le même nom, mais il y a une slash, ok, qui la ferme. C'est comme ça? Bon. Merci. Donc, les éléments peuvent avoir divers formats de contenu. Ils peuvent contenir dans le texte, donc il y a une balise, des mots, une balise qui ferme, ou bien deux autres éléments. Vous voyez ici l'exemple, par exemple, l'exemple d'une table, ok, c'est un tabulaire. Je mets ici la table parce que c'est particulier, ok. La table est bidimensionnelle. Tableau. Okay. Tableau, ok, une table. Merci. La table, c'est celui-là.
Et
la...
Oui,
je sais. Quand c'était à Ferfait que j'ai fait la formation, tout le monde allait à la maison en rigolant pour mes triangules et mes rectangules. Ils ont aimé beaucoup et les mots que j'invente. Donc, oui, merci pour ça. Les tableaux sont bidimensionnels normalement. On peut les lire par des lignes ou par des colonnes. Okay? Normalement, il nous donne la double, c'est quelque chose de graphique. Donc, ce n'est pas un texte qui se lit seulement in one direction. Donc, pour les représenter avec un langage comme ça, descriptif, et qui n'est pas graphique, il faut choisir l'une des deux directions. C'est une séquence de lignes ou de colonnes. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un théorie, ça c'est de la théorie. La théorie même qui suit l'HTML, c'est de choisir, de dire que le tableau est fait des lignes, row, et pas des colonnes. Les colonnes, ce sont, quand on affiche les lignes, elles se présentent graphiquement, mais logiquement, il n'y a pas de colonnes dans la description. Donc, on aurait pu choisir de l'autre façon, des colonnes, mais on ne peut pas avoir les deux. Et voilà, on voit l'un des problèmes logiques qu'on a. Quand il y a une représentation bidimensionnelle comme le tableau, c'est vraiment difficile de faire une représentation. Donc, ici, on a l'élément table, table, et l'élément row, qui contient des éléments cells. Les cellules qui sont dans notre ligne, ok? Donc si là on ira plus d'une row avec des cellules, la première cellule de la première row, ce serait au-dessus de l'autre, de la cellule de la deuxième ligne, ok? Ça c'est la façon qu'on la représente. Et vous voyez que l'élément, le contenu de l'élément ici, il n'y a pas de mots, il n'y a que des autres éléments, ok? Donc l'élément row, il est contenu dans l'élément table et l'élément sel est contenu dans l'élément row. Ok? L'élément sel n'est pas contenu dans l'élément table. Ok? Il est contenu que par l'élément row.
Ouais.
Donc, il y a un rapport. Ok? Ça, c'est la façon qui ça marche. Donc, c'est toujours le problème quand je demande qu'est-ce que c'est le contenu d'un élément vif en théorie. Oh, ils me disent du texte. Non, 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 c'est P. Ah, ok. Ok, c'est seulement un marche à la fois qu'il faut penser. Donc, quand on pense à un XSLT, on peut passer d'une façon à l'autre. Mais quand c'est du codage, c'est, le contenu, c'est direct. Ok? Donc, le contenu des rows, c'est seul. Le contenu des tables, c'est rows. C'est pas celle. Ok? Merci. Le troisième format, c'est le qu'on appelle Mixed Content Model, c'est-à-dire qu'on a un élément book ici qui contient l'élément title, un mot et l'élément auteur. Ok? Donc le contenu de book, c'est deux éléments, titre, title and author. Et les mots by. C'est clair? Donc, les mots money, ce n'est pas le contenu de book, c'est le contenu de titre, title. Ça marche? Merci. Donc, comment se présente la relation entre les éléments, on a vu, est de deux types, c'est ordinal et hiérarchique. Donc, s'il y en a deux éléments, A et B, il y a ces quatre possibilités. Ou bien A suive B, ou B suive A, ou A contient B, ou B contient A. Et seule une à la fois. On ne peut pas avoir deux de ces choses-là. Okay? Donc, ça, c'est la relation entre les éléments. Okay? Donc, on peut représenter un fichier XML comme un arbre généalogique. Donc on a un élément qui comprend tout, qu'on appelle l'élément racine, root element, qui donc pour faire un document XML valide, il faut un élément qui groupe tout, qui commence et qui ferme. Ok? Donc normalement dans un fichier théorie, elle s'appelle théorie. C'est pas vraiment original, mais ça c'est pas la raison d'avoir des éléments. C'est pas original, le point. C'est quelque chose de reconnaissable. On peut reconnaître le premier élément d'un fichier théorie s'appelle théorie. Donc on ouvre le théorie et on ferme théorie. Et après la fermeture de théorie, il n'y a rien. Le mot se termine. Ok? Donc ici, on voit que l'élément racine a un élément A et un élément B. Et dans l'élément A, on a l'élément A1 et l'élément A2. Et A1 et 2 sont un après l'autre. OK? Avec XPath, on peut faire des choses très intéressantes pour bouger d'une branche à l'autre, mais ici on a vraiment défini deux branches séparées, la branche A et la branche B qui ne se parlent pas. Okay? Et on a des éléments qui sont des frères, comme ça, A1 et 2. Ici il y a un fil unique. Okay? Donc la relation parentale, on utilise ça pour décrire. Pour décrire les documents XML. Comme ça. OK? Ça, c'est pour l'élément. Mais il y a une autre chose à savoir, que les éléments peuvent être aussi vides. On a dit qu'un élément peut avoir comme contenu du texte, des autres éléments, et une mixture de texte et éléments. Mais aussi, il peut être vide. Donc, quand on a un élément vide, on peut l'exprimer comme ça. Donc, on utilise une seule balise, pas ouverte et fermée, mais une balise seulement avec un slash à la fin de la seule balise. Donc, c'est une syntaxe qui condense la fermeture et l'ouverture des éléments, ou bien on peut faire comme ça. Okay? Les deux sont parfaitement coïncidentes. Ce sont la même chose. Celui-là, c'est simplement plus courte. Et normalement, on tend à l'utiliser de cette façon-là parce que XML est vraiment verbeuse. On doit ajouter pas mal de code dans les textes. Donc, tous les shortcuts, toutes les choses qui nous permettent de faire des choses plus courtes, on l'utilise. Donc, c'est normal de faire notre élément vide comme ça. Vous me demanderez, pourquoi faire de l'élément vide? Qu'est-ce que c'est la raison pour le faire? On verra des exemples, des exemples pour ça. Mais pensez pour faire un link, faire une connexion à un autre fichier, à une image. L'image, on ne peut pas prendre l'image et la copier comme on fait dans Word, quand on la voit, parce que ce n'est pas une représentation, c'est une connexion logique. Donc, le fichier, c'est sur quelque autre part, on fait un lien avec l'image qui est là. Et donc, on la processe, on va présenter la sortie qui présente notre image. Ou pour faire une connexion avec un autre fichier, si on trouve les noms rappelés, un vocabulaire, une liste de noms importants ou la place rappelée, quand on fait faire la désambiguation, qu'est-ce que c'est rappelé, que c'est mais là, c'est les. L'écrivain, c'est la place, c'est l'hôtel Rabelais, c'est l'école, c'est le lycée, les gymnases, qu'est-ce que c'est? Donc, on peut utiliser des éléments vides pour faire des connexions à des autres bases de données ou quoi. Ou pour marquer des choses qu'on ne peut pas marquer avec un élément, avec du contenu, parce que ça va créer un chevauchement. Donc, pour exemple, quand on a on veut faire l'encodage d'un roman à partir d'un document. Si on veut encoder les pages du document et les romans, on verra que les paragraphes ne se terminent pas avec la fin de la page. Donc on ne peut pas créer un élément page parce qu'il va chevaucher avec l'élément paragraphe. Ou la syntaxe de la poésie. Les vers et la syntaxe ne se coïncident pas. Donc, il faut choisir l'un ou l'autre. Ce sont les trucs qu'on peut jouer pour éviter de faire du chevauchement. On choisit d'encoder avec des éléments, avec du contenu, par exemple les vers, et d'utiliser des éléments vides qui marquent le commencement et la fin, soit ponctuellement, ou commence ou fin, une phrase ou une clause ou quoi. Donc, ça c'est la raison qu'on utilise les éléments vides. Ok? La deuxième partie de XML, ce sont les attributs. Et l'attribut, c'est une spécification normalement et quelque chose qu'on peut dire à propos d'un élément. Ok? Donc, il se présente comme ça. Dans la balise qui commence, la balise startup, je ne sais pas comment ça s'appelle, la balise d'ouverture
ouvrante,
la balise ouvrante, normalement on met l'attribut en espace. Donc ça c'est de la syntaxe. La syntaxe des langages formels est précise. Donc si on ne met pas l'espace ici, ça ne marche pas. Ok? Si on ne met pas les signes égales ici, ça ne marche pas. Si on oublie d'ouvrir et fermer les guillemets, ça ne marche pas du tout. Ça va être vraiment... Donc, quand on dit mettez la balise, mettez l'espace, c'est obligatoire. Donc, il y a trois rules. Ou mettre l'espace, ou mettre ouvre et les guillemets, et ce serait fermer les guillemets et mettre le slash, c'est obligatoire. Okay? Donc, tous les éléments sont faits comme ça, et tous les attributs sont faits comme ça. Ok? Ici, on a deux exemples de pourquoi un attribut peut être intéressant. Et ça, c'est ce que je vous disais quand on a commencé, que l'une des fonctionnalités du markup, c'est la possibilité de rendre explicite ce que c'est implicite. Ok? Donc, si vous pensez à votre texte, vous pourrez avoir quelque chose qui dise « la capitale, the capital of Uruguay », vous avez étudié la géographie à l'école primaire, et donc vous avez vous rappelez que la capitale, c'est Montevideo. Ce n'est pas écrit dans le texte, mais vous voulez créer un index à la fin. Donc, si vous cherchez tous les noms des lieux qui sont dans votre texte, vous voulez avoir la possibilité de trouver même ça, parce que c'est une version implicite. Donc, notre littérature, la façon que nous avons écrit, nous disent qu'il faut avouer de répéter la même chose plusieurs fois. Donc, on utilise des pronoms, on utilise des façons pour éviter de dire des choses. Mais les ordinateurs, pour créer un index, ils ont besoin de lui de faire dire que c'est une string, referring string. Okay? Donc, ici, on peut rendre explicite ce que c'est implicite. Ici, un autre exemple, c'est the prime minister during World War II. Ça, cette expression-là peut vouloir dire quoi que ce soit, ça dépend de la nation, justement. Si on parle de l'Angleterre, ce serait Winston Churchill. Si on parle de la France, ce serait quelqu'un d'autre. Et si ça dépend ou même dans les périodes, justement, parce qu'il y avait plusieurs. Et donc, les expressions que nous, parce qu'on a lu les contextes, on comprend ce que ça, c'est que c'est. Mais normalement, l'ordinateur n'est pas capable de désambiguer. Donc, c'est la raison qu'on utilise des éléments, on utilise, et quand j'ai parlé de recherche, je disais c'est ça. Donc, votre texte va être utilisé comme une base de données. Donc, ce n'est pas seulement un texte, mais qui va s'enrichir dans l'axe paradigmatique, pas seulement syntagmatique, parce qu'on ajoute des informations. Et toutes les couches d'informations qu'on pense que c'est intéressant. OK? Donc ici, par exemple, j'ai utilisé dans la balise nom, name, nom, j'ai deux attributs, type et rec. Donc j'ai utilisé en balise name, c'est ok, c'est un nom, mais quel est le type de ce nom? C'est le nom d'un fleuve, c'est le nom d'une montagne, c'est le nom d'une personne. Donc j'ai dit ok, ce nom-là, c'est le nom d'une personne. Et puis j'ai ok, régularisation. Je veux dire, ok, ça, cette expression-là correspond à Churchill, virgule, Winston. Et à cette façon-là, je peux régulariser quand il me manque les noms des prénoms, quand les prénoms viennent après le nom, donc faire une indécisation, c'est pas compliqué. Il nous permet de faire ça. L'une des choses les plus intéressantes qui se passent dans les textes, c'est la possibilité de régulariser comme ça les dates. Les dates qui se trouvent, qui suivent tous les calendriers possibles, imaginables. Et donc, dans toutes les villes, il y avait une façon différente dans une période, dans le Moyen-Âge, et même dans la Renaissance, pour à ce moment, il y avait la possibilité de calendriers qui ne parlaient pas l'un avec les autres. Il y avait une différence des années, des jours. Donc, en connaissant ça, on peut créer une correspondance, laisser dans les textes ce qui était écrit, que c'est un document historique, mais en même temps de créer une chronologie. Une chronologie au cours suivant un calendrier, qui est standard. Okay? Donc c'est une des choses les plus intéressantes. Et vous avez vu des exemples auparavant, quand je vous montrais l'édition du texte médiéval, la possibilité d'encoder avec des attributs ou des autres éléments les abréviations et l'expansion des abréviations. Donc les deux ensemble peuvent être encodés. Il ne faut pas choisir l'orthographie. S'il y a une erreur d'orthographie, on peut les maintenir les deux. OK? Donc je vous disais, les théories. Je termine avec XML. Vous connaissez XML. C'est tout. vraiment, il n'y a pas beaucoup plus à s'apprendre avec l'XML, c'est ça. Il y a des éléments, il y a des attributs, il ne faut pas les chevaucher, il faut utiliser les guillemets. Ok? Donc, dès que vous avez appris l'XML, je vous apprends la théorie dans 5 minutes. Comme je disais, la théorie a 500 éléments, plus ou moins, 514, quelque chose comme ça. Et donc, il nous permet d'encoder les textes dans une façon de détails que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, comme fait, on a utilisé 500 éléments, well, c'est vraiment difficile. Donc, la théorie est organisée de façon modulaire, donc il nous permet de choisir seulement les choses qui nous servent toutes les fois. Comme ça, c'est la question que vous m'avez faite. Est-ce que c'est ouvert à des modifications? Oui, c'est ouvert à des modifications, mais pas seulement des modifications qu'on demande à la théorie centrale. On peut faire des modifications locales. Donc, on a la possibilité de formaliser et de faire, de documenter des modifications locales. Et ces documentations locales paient. Après, si vous pensez que c'est intéressant de devenir une partie de la théorie. Mais pour le moment, vous disiez, OK, je vais expérimenter si c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse ou pas. Normalement, donc, on peut faire ça et on peut faire d'une façon propre. OK? Donc, la théorie a un mécanisme pour la customisation. La customisation, on peut la faire en façon canceller des éléments, supprimant des éléments, enrichir son des éléments avec de nouvelles attributs, et voilà. Vous vous rappelez les fichiers que j'ai montré des landscape? Il y avait pour chaque mot, il y avait un élément W. Il y avait un attribut qui s'appelle lemma, qui c'était où on a enregistré l'élément pour la lemmatisation. Et puis il y avait un attribut qui s'appelait LNSG, des points TRNS, trans, qui c'était une localisation, un attribut qu'on a inventé nous pour notre projet, c'est la traduction. Et on l'appelait landscape. Donc, on a donné un préfixe qu'on pouvait facilement les retrouver dans tous les textes. Donc, c'est une modification locale. Et on a mappé la modification locale sur un attribut existant. Donc, pour les distribuer dans les mots, on les transforme dans un attribut standard TEI. Mais localement, parce qu'on pense que c'était plus facile pour les codeurs de faire des choses qui ont de la signification sémantique qui faisait du sens pour eux, on l'appelait comme ça. Donc, on peut faire des modifications locales et il y a une version tous les 6 mois. Donc, comment choisir les éléments, 500 éléments? Il y a diverses façons de le faire. La première, c'est de ne faire pas, de l'utiliser tous les 500. Donc, il y a une version de la théorie qui s'appelle TI-All, qui on peut utiliser dans un directement, donc on a à disposition 514 éléments tout le temps. Donc normalement c'est pas vraiment recommandé de faire ça, parce que plus d'éléments on a, plus il est facile de faire des erreurs, et se perdre, et de perdre de la concentration, et d'être complètement submergé par option. Mais quand on est en train de faire des expérimentations, ça peut être utile d'avoir à disposition et voir vraiment qu'est-ce que c'est, que c'est possible d'avoir là. Et il y a des customisations, des versions plus petites qui sont standards, qu'on peut télécharger directement du site TEI, ou si on utilise un logiciel comme Oxygen, ils sont prédéfinis dans Oxygen. Ou on peut aller en Roma, qui c'est un outil TEI qui permet de choisir les éléments qu'on veut utiliser, et de faire des modifications à des éléments, changer les noms, ajouter un attribut, supprimer des éléments, et voilà. Okay? Donc, la demande, pourquoi c'est une bonne idée de le faire, de réduire les schémas, parce que vraiment, comme on disait, c'est vraiment difficile de commander 500 éléments. Quand on a, qu'est-ce que c'est l'élément que j'ai pu utiliser ici? On a 80 possibilités, donc on dit, OK, je pense que c'est vraiment une perte de temps. Et ils aident à penser, avant de faire le codage, à ce que vous voulez faire. Donc, à planifier, à faire un modèle de texte et à vraiment à réfléchir. Et dans une formalisation, à sa propre réflexion. OK? Et on a vu de faire qu'on s'appelle les tag abuse. Okay? Quelquefois, il y a des éléments, les noms, nous semble que c'est pour faire des choses, mais ça signifie quelque chose d'autre. Donc, l'exemple que j'utilise tout le temps est un élément qui s'appelle gloss. Et ça, c'est bien. J'ai un manuscrit médiéval avec des glosses dans ma marge et je l'utilise ça pour le glossage. Mais ce n'est pas ça. Dans l'élément gloss, ça veut dire c'est l'explication d'un dictionnaire. Donc, dans le dictionnaire, il y a une définition, c'est le gloss. Donc, il faut vraiment ne pas faire confiance dans les noms des éléments. Il faut les lire. Mais quand on est en train d'encoder, on voit ces éléments. Oui, c'est mon élément. Et aller comme ça. Donc, si on fait une opération de sélection préliminaire, on voit vraiment que c'est les choses qu'on va encoder, la raison pour l'encoder. Et donc, c'est l'élément qui s'est approprié pour ça. Et on efface tout le reste. On supprime ce qui peut être du bruit, noise, dans le codage. OK? Je pense que c'est fini pour moi. Donc, j'ai terminé, c'est bon.
Merci beaucoup.